Écoutez mon histoire.
Regardez, regardez bien. Vous ne voyez rien ? Alors laissez le musée derrière vous et approchez-vous du mur, là, sur votre gauche. Vous voyez ? Ouvrez grand votre regard intérieur. Imaginez que vous êtes un faucon et que vous survolez la ville. Où iriez-vous vous poser pour surplomber la plaine ? C'est ainsi que débute l'histoire de la forteresse, par un regard qui prend son envol. C'est qu'il faut surveiller ici, partout depuis toujours. Surveiller ce fleuve d'où l'ennemi peut débarquer à chaque instant ou presque. Surveiller les collines, les sentiers, les plaines odorantes et les falaises abruptes. Toujours il faut de la hauteur pour veiller sur une ville. C'est donc ici, sur ce sommet, que sera construite la forteresse. Venez, suivez l'allée du belvédère tout droit, toujours tout droit. Là, vous voyez cette volée de marche ? Juste devant vous. Descendez-les, il y en a 33. Puis montez sur le chemin de ronde et prenez donc à droite. La balade continue.
Vous marchez sur mon rempart. Vos pas résonnent sur mes mémoires. Avancez, avancez.
Si vous saviez ce qu'on voyait alors, dans mon château, tant de vie, tant de mouvements, tant de cris de sabots qui piétinent, tant de conquêtes, tant de combats. Laissez donc votre regard errer à sa guise. La vue est si belle, si paisible aujourd'hui. Une tour de guet, là, domine la ville. Le vertige guette celui qui n'y prend garde. Ici, les rondes de surveillance s'enchaînaient. La forteresse, en ce temps-là, était devenue royale. Mais avant cela, d'autres remparts, déjà s'érigeaient sur ces terres. Descendons du chemin de ronde et dirigeons-nous vers les ruines que vous apercevez là, dans ce si joli parc.
Longtemps, je fus comtal, puis je devins royal. Telle une poupée russe, on m'ajoutait des murs, des salles et des remparts. À eux alors de faire face à l'histoire et aux hommes.
Vous vous trouvez devant une borne historique. Non ? Regardez bien le plan et puis fermez les yeux. Ici, à vos pieds, se dessinent les vestiges de deux tours. Elles marquaient alors l'entrée du château des comtes de Toulouse. Vous les voyez ? Elles se répondent, tel un écho de pierre. Entre les deux, un pont-levis, du moins c'est ce que disent les anciens. Vous, aujourd'hui, vous ne voyez que quelques pierres, perdues dans l'herbe folle. Vous vous dites que ce n'est rien, un pont-levis de plus, une tour de guet en moins, peu vous importe. Mais imaginez que vous êtes celui qui était là, en haut, perché sur cette vieille tour. Celui à qui était confiée la chaîne du pont-levis, qui devait décider si oui ou non ouvrir aux visiteurs. Quelle responsabilité ! Vous ne voyez peut-être que des ruines. Moi, je vois ces hommes qui luttent contre le sommeil, se protègent du froid, tremblent de faillir à leur tâche. De tout ceci, elles vibrent encore ces vieilles pierres sous vos semelles. Allez, on continue. Passez donc par la grille aménagée dans les remparts. Traversez la muraille.
Un pas, deux pas, trois pas. Passez la muraille, la guerre est finie.
Tournez à droite et avancez. Vous sentez encore cette sensation de hauteur grisante et cette vue sur les alentours. Vous dominez, vous voyez ? Vous êtes ici à l'entrée nord. Avant qu'on ne prélève la pierre de Beaucaire formant ainsi une paroi abrupte qui plonge vers le fleuve, les pentes de la colline se montaient en douceur. Les gens venaient de Beaucaire à pied, à cheval, tirant une charrette. Sachez qu'à l'époque, la forteresse de Beaucaire était une des plus vastes fortifications de la basse vallée du Rhône. Puissante et splendide. Continuons la balade. Vous allez voir. Faisons une petite pause, voulez-vous ? Regardez. Regardez loin. N'hésitez pas. Déambulez un peu. Vous voyez les alpilles ? Vous devinez la digue derrière les platanes ? Vous reconnaissez le château de Tarascon là-bas ? Le Rhône, longtemps séparé de comtés, celui de Toulouse et celui de Provence. Le fleuve était frontière, protection et danger aussi. Il était essentiel, il l'est toujours resté. Marchons encore un peu, je vais vous raconter un bout de notre histoire. Le récit sera sanglant. Vous voici prévenu.
Mon donjon est une proue. Posé sur le rocher. Il épouse ses formes étonnantes. Les hommes m'avaient détruite, mais moi, j'ai survécu. Écoutez mon histoire.
Levez donc la tête. Vous voyez ? Vous êtes à l'ombre du donjon. Fermez les yeux et écoutez. Écoutez comment, au XIIIe siècle, le Nord tente de soumettre le Sud. Roi et pape nomment hérétique ce peuple de Languedoc qui souhaite conserver ses terres, ses coutumes et sa langue. Le roi, Philippe II, n'apprécie guère ces dissidents, appelés cathares, qui se rebiffent contre l'Église catholique établie. Il déclare le Languedoc terre d'hérésie. Qu'il faut reconquérir et surtout châtier. C'est Simon de Montfort qui se charge de remettre de l'ordre royal sur les terres du comté de Toulouse. Les guerres commencent, les bûchers s'embrasent, la terre du sud se colore de sang. Raymond VI, comte de Toulouse, se voit excommunié. Le pape est contre lui. Il fait acte de pénitence, tente de sauver son peuple, en vain. Alors, il s'associe aux cruels croisés, voit tomber Carcassonne puis Béziers. Le Languedoc est vaincu, rien n'arrête Montfort. Déjà, seigneur des deux villes vaincues, il se lance à la conquête de Beaucaire. Mais c'est sans compter sur Raymond VII, fils du comte de Toulouse, qui lance une contre-croisade assiège sa propre forteresse pour forcer les croisés à quitter les lieux. Après plusieurs semaines violentes, et malgré l'intervention de Simon de Montfort lui-même venu en renfort, Beaucaire remporte la bataille, rendant ainsi espoir aux méridionaux battus. Faisons donc quelques pas. Ici, l'architecture est guerrière et les mots, barbares. Vous voici ainsi devant la barbacane, cette porte pleine de pièges que l'ennemi voudrait franchir. Levez un peu la tête, vous voyez ? Coulisseaux et herses attendent l'adversaire. Depuis les Ours, les hommes en armes guettent l'assaillant. Les projectiles en haut de l'assommoir, sous l'arche, sont prêts à s'abattre sur les têtes ennemies. Partout, des meurtrières abritent les archers. C'est qu'ici, comme dans toute forteresse, tout est conçu pour les batailles. c'est ainsi. L'humain se bat tout le temps. Voici une porte de bois. Poussez-la et continuez. Laissons donc derrière nous la zone de guerre. Mais ne vous relâchez pas trop tôt. La paix n'est pas acquise pour autant.
Écoutez la chanson de la croisade albigeoise. Écoutez comme elle chante mes souffrances.
Les chevaliers besognent avec acharnement. Chacun pousse ses gens au plus chaud des mêlées. La piétaille hardiment fait feu de toutes armes. Le fracas du combat est si tonitruant que le fleuve frémit et que la terre tremble. Les cris déchirent l'air, les lances sont souillées de cervelles sanglantes et de lambeaux de chair. Les corps pleuvent si de rue qu'il n'est pas un guerrier qui ne gémit, saignant par quelque plaie ouverte. Les Français sont à bout de force, ils se replient. C'est bon, vous avez poussé la lourde porte et monté les marches jusqu'à la haute cour. Déambulez un peu, baladez-vous et faites jouer votre imagination. Il le faudra. Car ici, côté sud, tant de choses ont été détruites. Tant de murs ont disparu. Des murs, mais aussi des logis, des remparts, des salles basses. Il faut dire que, à peine 9 ans après le premier siège, Beaucaire retrouve les affres de la guerre. Louis VIII, qui a succédé à son père Philippe II, reprend la croisade et envoie ses troupes en Pays d'Oc. En 1229, Raymond VII, obligé de capituler, voit le Languedoc rattaché au royaume de France. Mais, malgré les coups du sort, Beaucaire continue de grandir. La ville double même de superficie pendant la guerre de Cent Ans. Les Anglais, suivis des Bourguignons, assiègent le château. Sans parler de la réforme et des combats qu'elle entraîne, des sièges divers, des guerres de religion partout, des morts, des assassinats, des histoires de femmes, des massacres. Et n'oublions pas le gouverneur de Languedoc, Montmorency et Gaston d'Orléans, frères du roi, qui, au XVIIe siècle, se révoltent contre le pouvoir royal et qui installent leur base à Beaucaire. En 1632, le roi Louis XIII, de rage, fait raser le château de Beaucaire.
Regardez-les comme ils creusent, fouillent et conjecturent. C'est que je suis bien loin d'avoir livré tous mes secrets, vous savez. Ainsi, la chaîne que vous voyez protège mes entrailles. Faites le tour en longeant les chaînons de métal jusqu'à apercevoir en contrebas l'ouverture de la salle basse. Oh, il n'en reste pas grand-chose, je sais bien. Et on ne peut y pénétrer, c'est interdit. Trop sombre, trop dangereux. À quoi servaient-elles donc ces mystérieuses salles basses ? On ne sait pas, on ne sait plus. Était-elle base de défense? On le présume car regardez bien. J'ai gardé dans mes murs des traces de meurtrières. On suppose également qu'en temps de paix, une 50aine de personnes vivaient dans mon enceinte. À l'époque du royaume de France, j'abritais même un sénéchal qui accueillait ici les administrés et récoltait l'impôt. On dit qu'il y avait une garnison armée et une grande salle de réception dont on devine les traces sur le sol et sur les parois du haut donjon. On devine aussi la grande citerne où s'écoulait l'eau de pluie. Un puits fut établi au-dessus. On le dit profond, très profond, aussi profond que le sont mes secrets. C'est que l'histoire ne dit pas tout, que voulez-vous ? Chut ! Écoutez mon histoire, elle n'est pas terminée. Prenez donc place sur les bancs de pierre à l'ombre des grands pins et écoutez, écoutez mon histoire.
Hugernum, tel était le nom de Beaucaire. Une antique stèle en témoigne. Elle fut découverte ici même. Vous pourrez l'admirer au musée tout à l'heure. La Via Domitia passait alors par là. Castrum, Hugernum, se dressait fièrement. Un sénateur gaulois y fut proclamé empereur en 455. Il s'appelait Avitus. Il avait un peu la folie des grandeurs, mais il ne fut pas le seul à se servir de l'endroit pour ses petites mises en scène. La présence romaine a laissé quelques traces, stèles, poteries et les soubassements d'un monument romain qui invite à la pose. Vous les voyez ? L'assise et ses voûtes verticales. Il était grand et noble lorsqu'il dominait la ville. Romains, Goths, Sarrasins, des comtes et des duchesses, des rois, des sénéchaux, des guerres et des carrières. Elle en aura vécu des conquêtes, ma forteresse. Elle en aura vu passer des hommes, des femmes, des vainqueurs et des perdants. Elle a connu un saint aussi. Venez, nous allons visiter sa chapelle.
La légende raconte que ma chapelle fut construite par un roi. Peut-être. Ce qui est sûr, c'est que moi seul sais ce que ressentent les hommes et les femmes lorsqu'ils viennent y prier. Écoutez la légende.
Nous sommes en 1254. Louis IX, dit Saint-Louis, rentre de croisade. Il s'est battu pour sa foi. Il a vu mourir ses hommes. Le souverain est épuisé. Il s'arrête à Beaucaire, cette ville du sud, où il a installé une sénéchaussée. Il aime ce lieu qui domine le Rhône. Il en aime le soleil, les paysages presque sauvages, le tempérament des gens. Il aime aussi cette forteresse qui a vécu tant de vie. Le roi laisse planer son regard au loin, là-bas, vers les sommets verdoyants. Il entend les oiseaux. Un calme doux l'envahit. Après des années de guerre, Saint-Louis connaît un instant de grâce ici à Beaucaire. L'homme sourit aux cieux, appelle son contremaître. « Tu me construiras une chapelle, ordonne-t-il. Je veux qu'elle soit prise dans le mur de l'enceinte. » Ainsi fut fait. Plus tard, peu à peu, au gré des modes, corniches, denticules, portails et gargouilles viendront ornementer la modeste chapelle.
L'histoire s'est-elle vraiment déroulée ainsi ? Personne ne sait. Mais elle aurait pu, et c'est tout ce qui compte. Venez, descendons maintenant ces quelques marches. Passons sous l'arche de la porte. Les eaux du fleuve scintillent sous le regard. Rhône, noble Rhône, que j'ai aimé voir les marchands débarquer sur tes rivages, aimé aussi sentir les épices, admirer les étoffes chatoyantes, découvrir tant de mondes merveilleux grâce à toi. Sur ton champ de foire, aujourd'hui déserté, la foire de la Madeleine inspirait les plus grands. Alphonse Daudet en parle si bien. Écoutez.
La foire de Beaucaire était, sous prétexte de commerce, 15 jours à un mois de la vie libre, exubérante, imprévue d'un campement bohémien. On couchait ça et là chez l'habitant, dans les magasins, sur les comptoirs, en pleine rue, sous la toile des charrettes à la chaude lumière de juillet. Ah, les affaires, sans l'ennuyeux de la boutique, les affaires traitées en dînant sur la porte en bras de chemise. Les baraques enfilent le long du pré, au bord du Rhône, qui, lui-même, n'était qu'un mouvant champ de foire, balançant ses bateaux de toutes formes, ses barques venues d'Arles, de Marseille, de Barcelone et des Baléares, chargées de vin, d'anchois, de liège, d'oranges et parées d'oriflammes, de banderoles qui claquent au vent frais, se reflétant dans l'eau rapide. Et ces clameurs, cette foule bariolée d'Espagnols, de Sardes, de Grecs en longues tuniques avec les babouches dorées, d'Arméniens en bonnets fourrés, de Turcs avec leurs vestes galonnées, leurs éventails, leurs larges pantalons de toile grise, se pressant au restaurant en plein vent, aux étalages de jouets d'enfants, de cannes, ombrelles, orfèvreries, pastilles du sérail, casquettes, etc., etc.
J'ai connu la paix aussi, mais bientôt, d'autres hommes sont venus. Armés de pioches et de marteaux, ils ont meurtri ma roche. Ils voulaient la Béocaire, la belle pierre, celle qui donne sa lumière si particulière à ma ville et qui lui a donné son nom aussi. Oh, ils en prenaient tant, frappant leur outil dans mes flancs, charriant et charriant la falaise, tant et tant que j'ai craint de tomber dans le vide sans plus de roche pour me soutenir. Et puis est arrivé le 19e siècle. Le chemin de fer a rendu inutiles les bateaux sur le Rhône. La foire a entamé une lente agonie. Quelle tristesse! Mais ce fut aussi ma chance, car ils arrêtèrent enfin d'exploiter les carrières. Enfin, mes murs, déjà si mal en point, ne résonnaient-ils plus de leurs coups. Arriva alors un drôle de bonhomme. On m'a dit qu'il s'appelait Prosper Mérimée, qu'il écrivait des livres et venait d'être nommé inspecteur des monuments historiques. Moi, je sais juste qu'il s'attrista à la vue de mes ruines et qu'il voulut me protéger. Un monument historique, voici ce qu'il fit de moi. Et aujourd'hui, regardez comme il est beau, mon grand parc arboré. Promeneurs et oisillons se baladent dans mes creux et je vieillis sereinement désormais. Avec à mes pieds le Rhône, mon vieil ami.
La visite n'est pas finie. Retournez-vous une dernière fois et regardez bien le mur. Vous voyez le bossage ? Ces pierres irrégulières qui forment comme un relief et contre lesquelles venaient se briser les flèches allumées. En cherchant bien, vous pourrez aussi apercevoir les pierres au sol qui formaient les fondations de deux tours. Que de destruction dans l'histoire de l'homme, mais aussi que de beauté, que d'ingéniosité, que de courage et d'enthousiasme aussi. Vous n'en avez toujours pas assez ? Allez, le musée Jacquet est fait pour vous alors. N'hésitez pas à vous y attarder. Il est là, juste en bas, marchez, à côté de ce petit bout de jardin si poétique et si serein que l'on appelle, figurez-vous, Jardin de la Vignasse. À vous d'extrapoler pourquoi.
Au revoir. À bientôt, l'histoire ne s'arrête jamais.